Le but de la rédemption est la possession, et le but de cette possession est la ressemblance à celui qui est en même temps rédempteur et divin propriétaire, ressemblance, c'est-à-dire sainteté. Nous devons bien nous rendre compte que la rédemption et la sainteté sont inséparables. Elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Seule la rédemption conduit à la sainteté. Si je poursuis la sainteté, je dois m'en tenir à cette expérience claire et complète, c'est que je suis un racheté et que, comme tel, je suis la propriété même de Dieu. On regarde trop souvent le côté purement négatif de la rédemption, c'est-à-dire la délivrance de l'esclavage, tandis que la gloire de la rédemption gît bien plus encore dans l'élément positif, savoir que nous avons été rachetés pour que nous fussions la propriété même du Rédempteur. La pleine possession d'une maison implique l'occupation de cette demeure. Si je possède une maison sans l'occuper, elle peut devenir la demeure de tout ce qui est impur et mauvais. Dieu m'a racheté et m'a fait sa propriété afin de prendre complètement possession de moi. Il dit de mon âme, elle m'appartient, et il veut que son droit de propriété soit reconnu et rendu parfaitement évident. Le lieu où Dieu a pu entrer et dont il a pu prendre entière et complète possession devient par là même la demeure de la parfaite sainteté. Deux, c'est la rédemption qui donne à Dieu ses droits et son pouvoir sur moi, c'est la rédemption qui m'a franchi pour que Dieu puisse posséder et bénir, c'est la rédemption vécue, réalisée et remplissant mon âme, qui me donnera l'assurance et qui me fera faire l'expérience que toute sa puissance veut opérer, agir en moi. En Dieu, la rédemption et la sanctification sont une seule et même chose. Plus la rédemption prend possession de mon âme comme une divine réalité, plus je me sens intimement lié au Dieu rédempteur, le Saint. Et c'est précisément la sainteté seule qui donne l'assurance et la jouissance de la rédemption. Si j'essaie d'apprécier la rédemption à moins que cela, je pourrais être déçu. Si je manque de vigilance et que je devienne négligent, je devrais trembler à la seule pensée de me reposer sur une rédemption qui n'aurait pas pour objet la sainteté. Dieu dit à Israël, « Je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, c'est pourquoi vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Lévitique 11, 44,45, c'est Dieu, le Rédempteur, qui nous a fait siens et qui nous appelle à être saints. Que la sainteté soit donc aussi pour nous la partie la plus essentielle, la plus précieuse de la rédemption, l'abandon de nous-mêmes à celui qui nous a pris pour que nous fussions à lui, et qui a entrepris de nous faire siens, entièrement. Une seconde leçon qui nous est donnée ici, c'est la relation qui existe entre l'œuvre de Dieu et celle de l'homme dans le travail de la sanctification. Dieu dit à Moïse, « Sanctifiez-moi tous les premiers-nés. » Et plus loin, « Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. » Ce que Dieu dit, il le fait de manière à ce que cela se fasse par nous, et que nous nous l'approprions. Quand il nous dit que nous sommes rendus saints en Christ Jésus, que nous sommes ses saints, il ne parle pas seulement du but qu'il a en vue, mais de ce qu'il a fait en réalité. Nous avons été sanctifiés par une seule offrande en Christ, et par une nouvelle création en lui. Mais cette œuvre a un côté humain. L'appel à être saint, à poursuivre la sainteté, la parfaite sainteté nous a été adressée. Dieu nous a fait siens et nous permet de dire que nous lui appartenons, mais il attend maintenant de nous que nous lui cédions une place toujours plus grande, que nous lui laissions une entrée toujours plus libre et plus complète dans les lieux les plus intimes et les plus secrets de notre être intérieur, afin qu'il les remplisse de sa plénitude. La sainteté n'est pas une chose que nous apportions à Dieu ou que nous fassions pour lui. La sainteté est ce qu'il existe de Dieu en nous. Dieu nous a fait siens dans la rédemption, afin que nous puissions le faire nôtre dans la sanctification. Et notre œuvre, à nous, en devenant saints, c'est de lui apporter notre vie entière, sans aucune réserve, et de la placer sous l'assujettissement de la règle de ce Dieu saint, mettant chacun de nos membres et chacune de nos capacités sur son autel. Et ceci nous donne la réponse à la question de savoir quel rapport existe entre ce qu'il peut y avoir de soudain et ce qu'il peut y avoir de graduel dans la sanctification, entre le fait que cette sanctification peut être une fois pour toutes complète et qu'elle est cependant imparfaite et demande à être achevée. Ce que Dieu sanctifie est saint, d'une sainteté divine et parfaite en tant que don de Dieu, l'homme doit se sanctifier en reconnaissant, en maintenant, en développant cette sainteté relativement à ce que Dieu a sanctifié. Dieu a sanctifié le sabbat, l'homme doit le sanctifier, c'est-à-dire le garder comme un jour saint. Dieu sanctifia les premiers-nés comme étant sa propriété, Israël devait les sanctifier, les traiter et les donner à Dieu comme saints. Dieu est saint. Nous devons le sanctifier en le reconnaissant comme le saint, en adorant, en honorant cette sainteté. Dieu a sanctifié son saint nom, son nom est saint. Nous sanctifions ce nom, ou nous l'honorons quand nous le craignons, quand nous nous y confions et que nous l'employons comme une révélation de sa sainteté. Dieu a sanctifié Christ, et Christ s'est sanctifié lui-même, manifestant ainsi, par une volonté et une action personnelle, une parfaite conformité à la sainteté dont Dieu l'avait sanctifié. Dieu nous a sanctifiés en Jésus-Christ, nous devons être saints en nous livrant nous-mêmes à la puissance de cette sainteté, en la pratiquant, en la manifestant dans toute notre marche et dans toute notre vie. Pour employer une expression fort usitée de nos jours, le don divin objectif de la sainteté, qui nous a été accordé une fois pour toutes, nous devons nous l'approprier comme une propriété subjective, nous devons nous purifier nous-mêmes, achever notre sanctification. Rachetés en vue de la sainteté, nous devons, de même que ces deux pensées, n'en font qu'une dans le plan et l'œuvre de Dieu pour nous, n'en faire qu'une seule pensée dans notre cœur et dans notre vie. Quand Esaïe annonça la seconde, la vraie rédemption, il lui fut donné plus clairement et plus complètement qu'à Moïse de révéler le nom de Dieu, comme celui qui est le Rédempteur, le Saint d'Israël. Esaïe 47, 4 Plus nous étudierons ce nom et le sanctifierons, et adorerons Dieu sous ce nom-là, plus ces deux mots nous paraîtront inséparables, et nous verrons alors, comment, de même que le Rédempteur est le Saint, de même les rachetés sont aussi des saints. Esaïe dit en parlant d'un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte, les rachetés seuls y marcheront. La rédemption, qui vient de la sainteté de Dieu, doit aussi y conduire. Nous comprendrons qu'être racheté en Christ, c'est être saint en Christ, et l'appel du Dieu qui nous a rachetés acquérera une nouvelle signification. Je suis saint, soyez saint. Au Seigneur Dieu, le Saint d'Israël et son Rédempteur. Je t'adore dans une profonde humilité. Je confesse avec confusion que je t'ai longtemps cherché davantage comme le Rédempteur que comme le Saint. J'ignorais que ce fut, en tant que Saint que tu nous as rachetés, que la rédemption fut le résultat et le fruit de ta sainteté, que la participation à ta sainteté fut son but suprême et sa plus grande beauté. Je ne pensais qu'à être racheté de la servitude et de la mort, comme Israël, et je ne comprenais pas que, sans communion avec toi et sans conformité à ta vie, la rédemption perdrait toute sa valeur. Dieu très saint, je te loue pour la patience avec laquelle tu as supporté l'égoïsme et la lenteur à comprendre de tes rachetés. Je te bénis et je te loue pour l'enseignement de l'esprit de ta sainteté, enseignement qui conduit tes saints, et moi avec eux, à voir comment c'est ta sainteté, et l'invitation à en devenir participant, qui donne à la rédemption sa juste valeur, et comment c'est pour toi, le saint, et afin que nous fussions tiens, possédés et sanctifiés par toi, que nous avons été rachetés. Je te bénis de ce que tu m'accordes la grâce de croire que tu veux accomplir en moi, qui suis saint en Christ, tes glorieuses promesses, selon la grandeur de ta puissance. Amen. 1. La rédemption par son sang. Nous rencontrons le sang, sur le seuil du chemin, qui conduit à la sainteté. Ce n'est que lorsque nous connaissons la sainteté de Dieu comme un feu, et que nous courbons la tête devant le jugement qu'elle prononce, que nous pouvons apprécier la valeur du sang, ou la réalité de la rédemption. Aussi longtemps que nous ne pensons à l'amour de Dieu que comme bonté, nous pouvons faire effort pour être bons, la foi en Dieu éveillera en nous le besoin, puis la joie d'être saint en Christ. 2. Avez-vous compris le droit de propriété que Dieu a sur ceux qu'il a rachetés? Laissez à Dieu l'entière possession, la complète disposition de tout votre être. La sainteté vient de lui, notre sainteté, à nous, c'est de le laisser lui, le saint, être tout en nous. De voir la nota sur sainteté et propriété. Saint en Christ. Sixième jour. Sainteté et gloire. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers la demeure de ta sainteté, au sanctuaire que tes mains, ô Seigneur, ont fondé. Exode 15, 11-17. Nous faisons par ces paroles un nouveau pas dans la révélation de la sainteté. Pour la première fois, la sainteté est indiquée comme un des attributs de Dieu lui-même. Il est magnifique en sainteté, et c'est vers la demeure de sa sainteté qu'il conduit son peuple. Remarquons d'abord cette expression employée ici, magnifique en sainteté. Partout dans l'Écriture, nous trouvons la gloire et la sainteté de Dieu mentionnées ensemble. Dans Exode 29, 43, nous lisons, et ce lieu latent d'assignation sera sanctifié par ma gloire. La gloire d'un objet, d'une personne, c'est la valeur intrinsèque de cet objet, de cette personne. Glorifier, c'est faire disparaître tout ce qui pourrait empêcher la parfaite révélation de cette excellence. La gloire de Dieu est cachée dans sa sainteté, dans la gloire de Dieu se manifeste sa sainteté, sa gloire, révélation de lui-même comme le Saint, sanctifierait la maison. Ces deux expressions sont liées de la même manière dans Lévitique 10, 3, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. La constatation de sa sainteté dans les sacrificateurs devait être la manifestation de sa gloire au peuple. De même dans le cantique des Séraphins, Ésaïe 6, 3, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est Dieu qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vue, ni ne peut voir, et cette lumière est celle de la connaissance de la gloire de Dieu, qu'il communique à nos cœurs. La gloire est ce qui peut être vu, et ce qu'on peut connaître de cette lumière invisible et inaccessible, cette lumière elle-même est le feu magnifique, duquel cette lumière est l'éclat, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté n'est pas tant un attribut de Dieu que le sommaire qui comprend toutes ses perfections. C'est sur les bords de la mer rouge qu'Israël loue ainsi l'Éternel, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté. Il est l'incomparable, il n'y en a point de semblable à lui. Et en quoi l'a-t-il prouvé et a-t-il révélé la gloire de sa sainteté? Avec Moïse, en Horeb, nous avons vu la gloire de Dieu dans le feu au double, point de vue du salut et de la destruction, le feu consumant ce qui ne pouvait être purifié et purifiant ce qui n'était pas consumé. Nous retrouvons la même pensée dans ce cantique de Moïse. Israël, chante le jugement et la miséricorde. La colonne de feu est de nuit et vinrent se placer entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, nuée et obscurité pour les premiers, elle donnait la lumière, pendant la nuit pour les seconds. Les deux pensées traversent tout le cantique. Mais dans les deux versets qui suivent l'attribution à Dieu de la sainteté, magnifique en sainteté, nous trouvons le sommaire du jugement, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, confirmant Exode 14, 24, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens, depuis la colonne de feu et de nuit et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Point. Voilà la gloire de sa sainteté se manifestant par le jugement et la destruction de l'ennemi. Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Verset 13. Voilà la gloire de sa sainteté se manifestant, par la miséricorde et la délivrance, une sainteté qui, non seulement délivre, mais qui dirige vers la demeure de sa sainteté, où le saint doit demeurer avec et au milieu de son peuple. Dans l'inspiration de cette heure de triomphe nous est ainsi révélé de bonheur, que le grand objet est le fruit de la rédemption, préparé par celui qui s'appelle le Saint, doit être sa demeure au milieu de son peuple, son habitation chez les siens, rien moins que cette habitation ne peut satisfaire le Dieu Saint, rien moins ne peut rendre évidente la gloire parfaite de sa sainteté. Et maintenant remarquez comment, de même que c'est dans la rédemption de son peuple, que la sainteté de Dieu est révélée, de même c'est dans le cantique de la rédemption de ce peuple, que l'attribution personnelle de la sainteté à Dieu se rencontre. Nous savons comment, dans l'Écriture, à plus d'une reprise, après une intervention particulièrement remarquable de Dieu comme Rédempteur, l'influence spéciale du Saint-Esprit s'est manifestée par un chant de louange. Et il est à remarquer que c'est, dans ces élans de saint enthousiasme, que Dieu est loué comme le Saint. Voyez dans le cantique d'Anne, la mère de Samuel, « Nul n'est saint comme l'Éternel ». 1 Samuel 2, 2 le langage des Séraphins Ésaïe 6, et celui d'un chant d'adoration. Dans le grand jour de la délivrance d'Israël le cantique sera « L'Éternel est ma force, et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé ». Psaume 118, 14 « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a fait de grandes choses. Lève ta voix, habitante de Sion, car grand est le Saint d'Israël, qui est au milieu de toi. Et Marie chante « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint ». L'Apocalypse nous révèle ces quatre êtres vivants qui donnent gloire, honneur, et qui rendent grâce à celui qui est assis sur le trône. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était qui vient. » Et quand le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, est chanté près de la mer de verre, on entend ces paroles, « Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car toi seul es saint. » c'est dans les moments de la plus haute inspiration et sous l'influence de la manifestation la plus complète du pouvoir rédempteur de Dieu que ses serviteurs parlent de sa sainteté. Dans le psaume 97, 12, nous lisons « Réjouissez-vous en l'Éternel, vous justes, et célébrez par vos louanges sa sainteté ». Et dans le psaume 99 qui, avec cette parole trois fois répétée, « Il est saint », a été appelé l'écho terrestre des saints. Saint. Saint. Entonné dans le ciel, nous chantons avec le psalmiste « Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable ». Il est saint. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est que sous l'influence d'une joie et d'une haute élévation spirituelle que la sainteté de Dieu peut être parfaitement embrassée ou adorée dignement. Le sentiment qui nous sied le mieux, lorsque nous adorons le Saint, le sentiment qu'il convient que nous ayons, pour le connaître et pour l'adorer comme il est, en droit de l'attendre de nous, c'est l'esprit de louange qui chante et qui s'exprime en cri de joie dans l'expérience de son salut parfait. Mais ceci n'est-il pas en contradiction avec la leçon que nous avons apprise en Horeb, lorsque Dieu disait « Ne t'approche pas, ôte tes souliers de tes pieds » et lorsque Moïse craignait et se voila la face? N'est-ce pas là plutôt l'attitude qui nous convient à nous créatures pécheresses? En effet, et cependant ces deux sentiments ne se contredisent pas, bien plutôt ils sont indispensables l'un à l'autre, la crainte et la préparation pour la louange et pour la gloire. Et d'ailleurs n'est-ce pas ce même Moïse qui se cacha la face et qui craignait de regarder vers Dieu qui, ensuite, contempla la gloire de Dieu jusqu'à ce que sa face en fût rendue si glorieuse et si brillante que les hommes ne pouvaient en supporter l'éclat? Et le cantique qui célèbre Dieu comme magnifique en sainteté n'est-il pas aussi le cantique de ce Moïse qui devant le buisson ardent se cachait et était tout tremblant? N'avons-nous pas vu dans le feu, et en Dieu, et spécialement dans sa sainteté, ce double aspect, consumant et purifiant, repoussant et attirant, jugeant et sauvant, le dernier de ces deux aspects étant chaque fois, non seulement l'accompagnement, mais le résultat du premier? Aussi verrons-nous que, plus l'humiliation et la crainte sont grandes dans la sainte présence de Dieu, plus est réel et complet le dépouillement de tout ce qui appartient encore au moi, à la vieille nature, la mort du vieil homme et de sa volonté, plus l'abandon de tout notre être pour que tout ce qui en nous est péché soit consumé et sincère, plus aussi seront profondes et complètes la joie et la louange que notre cœur exprime en chant de délivrance et d'action de grâce qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Magnifique en sainteté, digne de louange. Le cantique harmonise ces éléments opposés en apparence. Oui, je veux chanter le jugement et la miséricorde. Je veux me réjouir en tremblant quand je loue le Saint. Quand je regarde aux deux aspects de la sainteté, tels que je les vois dans l'histoire des Égyptiens détruits et des Israélites sauvés, je me souviens que ce qui était là séparé est uni en moi. Par nature, je suis l'Égyptien, un ennemi voué à la destruction, par grâce, je suis l'Israélite élu en vue de la rédemption. En moi, le feu doit consumer et détruire, car ce n'est que lorsque le jugement a fait son œuvre que la miséricorde peut sauver parfaitement. Ce n'est que lorsque je tremble devant la lumière pénétrante, devant le feu dévorant et devant l'ardeur consumante du Saint, que j'abandonne, pour qu'elle soit jugée, condamnée et mise à mort, ma nature d'Égyptien, et ce n'est qu'alors aussi que l'Israélite, en moi, sera racheté et rendu capable de connaître bien son Dieu, comme le Dieu de son salut, et de se réjouir en lui. Béni soit Dieu. Le jugement appartient au passé. En Christ, le buisson ardent, le feu de la sainteté divine a fait sa double œuvre, en lui le péché a été condamné en la chair, et en lui aussi nous sommes libres. En livrant à la mort sa volonté, et en faisant la volonté de Dieu, Christ s'est sanctifié lui-même pour nous, et c'est par cette volonté aussi que nous sommes sanctifiés. Oui, ô Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, de tout mon cœur, je me joindrai à ce cantique de délivrance, et je me réjouirai en toi, comme au Dieu de mon salut. Ô mon Dieu, que ton esprit, qui a inspiré ces paroles de triomphe et de sainte joie, révèle tellement à mon âme cette œuvre de rédemption, comme expérience personnelle, que ma vie entière soit un cantique tout rempli de crainte et d'adoration. Je te prie, en particulier, que mon cœur tout entier soit rempli de toi qui es magnifique en sainteté, digne de louange et qui seul fait des prodiges. Que la crainte de ta sainteté me fasse trembler devant tout ce qui en moi est encore charnel, et enseigne-moi dans le service que je te dois, à renoncer à ma propre sagesse, à la crucifier, afin que ton Saint-Esprit seul agisse en millimètres.